Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là.
La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein.
Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner.
Libre Radio, www.libreradio.org, la web radio du peuple.
Bien, je vous propose de commencer cette conférence de presse ce lundi 9 avril à bien des égards. Est quand même une journée historique pour la communauté genevoise d'action syndicale. Elle lance à moins de 6 ans sa deuxième initiative populaire cantonale. Je rappelle, la première initiative lancée par notre communauté était en octobre 2011. Celle pour renforcer le contrôle des entreprises et lutter contre la sous-enchère salariale. Donc, deuxième initiative en moins de 6 ans. L'initiative que nous lançons aujourd'hui, elle a comme objectif fondamental de combattre la précarité et d'instaurer à Genève un salaire minimum légal à hauteur de 23 francs de l'heure, c'est-à-dire un peu plus de 4000 francs par mois. Pour notre communauté, ce lancement est très important. Il s'agit évidemment de tenir compte du fait que un salarié ou une salariée sur 10 a aujourd'hui à Genève encore un salaire inférieur à 4000 francs mensuels. Et pour notre communauté, évidemment, lutter contre la précarité est une priorité absolue. Lutter contre la précarité et le faire en refusant les divisions entre les salariés, parce que avec notre initiative, nous allons au cœur de là où la précarité est produite, nous allons au cœur de là où les bas salaires sont imposés, et nous allons au cœur de là où la sous-enchère salariale est produite et mise en œuvre. Donc, si pour certains, les bas salaires, les salaires inférieurs à 4000 francs, les salaires de sous-enchère sont la résultante de problématiques liées à l'immigration, eh bien, pour la communauté genevoise d'action syndicale, outre à combattre la précarité, notre initiative, elle s'inscrit également pour mettre la responsabilité des bas salaires, de la précarité et de la sous-enchère salariale là où elle doit être mise, c'est-à-dire sur les abus patronaux et auprès du patronat, qu'il s'agit avec notre initiative de faire passer à la caisse pour mieux partager les richesses et combattre la précarité. Pour la présentation de ce matin, nous sommes présents pour la communauté genevoise d'action syndicale, Audrey Schmitt, secrétaire syndicale UNIA, qui est l'une des responsables de ce dossier, Alessandro Pellizzari, vice-président de la CGAS et secrétaire de région d'UNIA Genève, Davide De Filippo, co-secrétaire général du syndicat CIT, également responsable du dossier salaire minimum pour la CGAS. Et nous sommes également entourés par quelques-uns des soutiens au lancement de notre initiative. Je vais commencer par Jean-David Christina pour le Parti du Travail, Jocelyne Allaire pour Solidarité, Delphine Klopfenstein pour Les Verts et Cyril Mizrahi pour le Parti Socialiste. Évidemment, notre initiative elle est placée dans un contexte et des enjeux qu'on va développer maintenant. C'est David De Filippo qui va les développer.
Oui, bonjour à tout le monde. Alors, le premier élément contextuel qui explique pourquoi est-ce qu'on lance aujourd'hui cette initiative, c'est le jugement l'été dernier du tribunal fédéral qui a validé, comme vous le savez, la loi cantonale neuchâteloise instaurant un salaire minimum à Neuchâtel. Ce jugement, pour nous, pour la CGS, il ouvre de nouvelles perspectives, parce que pas sans ignorer que à Genève, on en sera au troisième essai, après deux essais précédents. La première, c'était une initiative cantonale, constitutionnelle, sur laquelle le peuple genevois a voté en 2011, qui prévoyait d'inscrire dans la Constitution le principe d'un salaire minimum légal, mais sans en fixer le montant. Et le deuxième, c'était l'initiative fédérale lancée par l'USS et pour laquelle nous avions évidemment, nous étions très fortement mobilisés. Je dis que ça ouvre une nouvelle perspective, ce jugement neuchâtelois, parce que à l'époque de la première initiative cantonale qui avait été lancée par Ensemble à gauche, les syndicats avaient évidemment soutenu cette initiative, mais nous avions à l'époque quelques doutes sur l'effet que cette initiative aurait pu avoir en termes de fixation du montant du salaire minimum, parce que, comme vous le savez, très certainement, dans le droit suisse, il n'est possible d'instaurer un salaire minimum cantonal sans base légale fédérale que pour autant que ce salaire minimum relève de la politique sociale de compétence cantonale et non pas de la politique économique, pour la faire courte, et compétences fédérales. À partir de là, on se disait, bon, un salaire minimum cantonal, s'il a pour effet de le fixer au niveau des barèmes de l'aide sociale, c'est pas très très intéressant syndicalement en termes de montant. En revanche, la loi neuchâteloise, qui a donc été validée par le tribunal fédéral, ouvre des nouvelles perspectives, comme vous le savez, parce que le salaire minimum cantonal neuchâtelois, tout en restant dans le domaine de la politique cantonale, de la politique publique du social, a comme base de calcul non pas les barèmes de l'aide sociale ou de l'assistance sociale, mais les éléments qui servent à déterminer les prestations complémentaires AES, AI, avec un calcul qui aboutissait dans la loi cantonale neuchâteloise à, tenu des éléments neuchâtelois, à 20 francs de l'heure. Appliqué à Genève, ce même calcul est arrivé à 23 francs de l'heure, ce qui, pour la CGS, est un montant qui, là, commence à devenir véritablement intéressant. Et intéressant pourquoi ? Parce que si cette initiative devait être acceptée par le peuple, c'est un peu plus de 30 000 salariés qui seraient directement bénéficiaires du salaire minimum cantonal et qui verraient donc leurs conditions de revenus sensiblement augmenter grâce à ce salaire minimum légal. Dans différents secteurs, je peux en citer quelques-uns, il y a évidemment l'hôtellerie-restauration, le commerce de détail, la sécurité, le nettoyage, les agences de voyage, location de véhicules, l'économie domestique, la coiffure, les blanchisseries, l'industrie alimentaire, l'industrie textile, l'agriculture, et même, tout ça est cité dans notre... dans les documents que vous avez, et même la plupart des emplois de solidarité que la CGRS combat, toujours critiqué parce que la plupart des employés bénéficient de ces emplois de solidarité le sont à des salaires inférieurs à 3500 francs par mois, ce qui, pour la CGS, constitue une véritable sous-enchère étatisée, inacceptable. Donc, beaucoup de personnes concernées, c'est pour nous déjà là un élément fondamental de notre mobilisation sur cette initiative. Le salaire minimum légal vise à pallier également les insuffisances du partenariat social, parce que ça a été l'argument patronal qui nous ont servi à chaque tentative, de dire oui, le modèle suisse, il va très bien, le partenariat social fonctionne à merveille, grâce à ce partenariat social, eh bien, on a dans l'ensemble des secteurs des salaires corrects. C'est rigoureusement faux, parce que Non seulement près de la moitié des salariés en Suisse et à Genève ne sont couverts par aucune convention collective de travail, ou alors si on a une, il existe encore quelques conventions collectives de travail mais qui ne fixent pas de salaire minimaux. Donc voilà, c'est la moitié des salariés pour lesquels le partenariat social est insuffisant. n'existe tout simplement pas, pour différentes raisons. D'une part, du côté syndical, il y a un certain nombre de secteurs où c'est toujours plus difficile de mobiliser les salariés, compte tenu notamment de la faiblesse du droit suisse en matière de protection contre les licenciements. Mais c'est aussi pour un certain nombre de secteurs que le patronat n'est pas organisé en association fêtière à même de pouvoir contracter avec des partenaires sociaux une convention collective de travail. Alors ça, c'est la première insuffisance du partenariat social. La deuxième insuffisance, c'est que même quand il existe, même quand il y a des conventions collectives de travail, un certain nombre de ces conventions collectives, qu'elles soient cantonales ou fédérales, prévoit des salaires minimaux qui sont inférieurs à ce que nous revendiquons aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils sont inférieurs à ce que nous revendiquons aujourd'hui ? Ben, c'est d'une part parce que la partie patronale est de plus en plus intransigeante dans les négociations salariales, de moins en moins encline à partager les gains de productivité avec les salariés, et d'autre part parce que en ce qui concerne un certain nombre de conventions collectives nationales, elles sont négociées au niveau national avec des salaires moyens pour l'ensemble de la Suisse et qui sont pour Genève largement suffisants, parce que comme vous le savez, à Genève, d'une part, le niveau de salaire général est plus élevé que dans les autres cantons. Et corollaire, le coût de la vie également est beaucoup plus élevé. Et face aux difficultés qu'on a d'obtenir des avenants cantonaux pour les conventions collectives nationales, eh bien, une des solutions, c'est celle d'instaurer un plancher cantonal, à l'instar de ce qui a été fait sur le canton de Neuchâtel, du Jura également, et bientôt du Tessin. Un autre élément qui est pour nous également important, et là je citerai le rapport sur la pauvreté du Conseil d'État de 2016, c'est la question du report de ces salaires insuffisants finalement sur l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui payent les impôts, c'est-à-dire le report de ces insuffisances de politique salariale sur les dépenses publiques en matière d'aide sociale. Sous diverses formes, que ce soit les différentes allocations, logement, subsides, aide maladie, aide sociale, les prestations complémentaires à VSAI, parce qu'évidemment, qui dit salaire bas pendant la période active, dit également rente basse à la retraite ou lorsque malheureusement l'état de santé ne permet plus de travailler, on est au bénéfice d'une rente AI. Ça se répercute évidemment sur les dépenses publiques. Et je citais tout à l'heure le rapport du Conseil d'État de 2016 sur la pauvreté, et je vous citerai particulièrement, là aussi ça figure dans le dossier de presse que vous avez sous les yeux, le Conseil d'État, c'est pas les syndicats, les arthrogauchistes qui le disent, c'est le Conseil d'État. Je cite, sans un changement de cap dans les politiques salariales, l'intervention de l'État pour remédier à la faiblesse des revenus du travail sera appelée à augmenter, faisant dans les faits peser sur les finances publiques une insuffisance découlant de l'évolution du marché du travail. L'insuffisance découlant de l'évolution du marché du travail. Eh bien, comme ce changement de cap des politiques salariales, les employeurs, les patrons n'y procèdent pas spontanément, la CGS, avec cette initiative, se propose de prendre le taureau par les cornes et de procéder à ce changement de cap de politique salariale par voie légale. Sur la question des effets, et je terminerai par là, il y a de notre analyse, et qui n'est pas seulement la nôtre, un certain nombre d'économistes, les effets d'un salaire minimum légal ont des effets effectivement positifs, d'une part sur les salaires, et là j'aimerais quand même battre en brèche un argument patronal qui est tellement répandu qu'on ne se pose même plus la question de vérifier cette allégation. C'est le fameux épouvantail, le SMIC. Ah, salaire minimum légal va attirer magiquement tous les salaires vers le bas. Alors là-dessus, je vous invite effectivement à réfléchir à cette allégation. Pourquoi donc est-ce qu'un employeur qui paye aujourd'hui un salarié ou une salariée 5 000 francs, par exemple, parce que demain, il y aurait un salaire minimum, il va baisser son salaire? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? S'il ne le fait pas déjà aujourd'hui, il ne le fait déjà pas aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, il n'a pas de plancher, il pourrait le faire, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que s'il veut s'adjoindre des compétences, des capacités, de la motivation et de l'engagement dans l'entreprise, eh ben, c'est le salaire. Ce salaire supérieur, ben, c'est celui qui a été négocié avec, individuellement ou collectivement avec les salariés. Il n'y a aucune raison que parce qu'on introduit un plancher, tout à coup, magiquement, tous les employeurs se mettraient finalement à dégrader les conditions salariales de l'ensemble de leurs salariés. Et au contraire, l'instauration d'un plancher minimal aura pour effet à terme d'améliorer l'ensemble des salaires, parce qu'évidemment, si aujourd'hui vous avez un différentiel entre les salaires bas, qui pour la plupart sont en fait des salaires de personnel pas ou peu qualifiés, le différentiel avec les salaires plus élevés, généralement, dépend du niveau de qualification. Si on remonte le plancher, à terme, les salariés plus qualifiés vont également bénéficier d'augmentation du salaire pour rétablir ce différentiel entre le personnel qualifié et le personnel moins qualifié, parce que c'est comme ça aussi qu'au sein d'une entreprise, eh bien, les employeurs gèrent le personnel et s'adjoignent effectivement des compétences à hauteur du prix qu'elles valent. Et le dernier élément, c'est la question de l'emploi. Parce qu'évidemment, là aussi, ça, c'est l'argument patronal, le salaire minimum, ça va déclencher un nombre, des centaines de milliers de pertes d'emploi, parce que les employeurs n'auront pas la possibilité de payer ce salaire minimum. Alors, c'est peut-être vrai pour un certain nombre d'entreprises, mais il y a quand même fondamentalement une question de justice sociale qui se pose. Les machines, les locaux, le matériel a un prix. Pourquoi est-ce que la force de travail ne n'aura pas non plus, elle, un prix, et un prix en dessous duquel on ne peut pas aller? Ça, c'est le premier élément. Et s'il y a des employeurs qui n'ont pas les moyens de se permettre de payer correctement leurs employés, ben, c'est tout simplement que l'entreprise, elle n'est pas viable. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il est d'ordre économique. C'est que l'augmentation des salaires pour une portion assez importante, Manuel a dit tout à l'heure, ça représente ces 30 000 salariés, représente environ 10% de la population à Genève. Eh bien, ce que les employeurs perdront, en guillemets, en bénéfices, parce qu'ils auront dû redistribuer en salaire une partie plus importante d'entre eux, ils perdront en bénéfices, et ben ils le récupéreront en chiffre d'affaires parce que un salaire minimum et l'augmentation du pouvoir d'achat de plusieurs dizaines de milliers de salariés a des incidences économiques positives en termes de relance de la consommation et donc qui retourne, qui reste d'une part dans le circuit économique et qui retourne d'autre part vers les entreprises. Voilà, et je conclurai en disant que, comme Manuela l'a dit, ce salaire minimum légal pour la CGS est une vraie réponse au problème des bas salaires, contrairement à ce que le MCG et l'UDC tentent de faire croire à la population avec les deux initiatives qu'ils ont respectivement lancées, dont l'une écrit même noir sur blanc que ce seraient les frontaliers eux-mêmes qui seraient responsables des bas salaires à Genève, ce qui est rigoureusement faux, qui divise les salariés et qui masque finalement, qui jette un écran de fumée sur les véritables responsables de ces bas salaires, qui sont les employeurs indélicats.
Merci, voilà. David. Maintenant, on peut entrer dans le texte lui-même de l'initiative.
Juste encore avant ça, bonjour. Il y a un dernier élément qu'on voulait souligner, et pas des moindres, c'est l'effet que le salaire minimum pourrait avoir sur la question de l'égalité entre femmes et hommes. Vous le savez, actuellement, il y a des débats au Parlement fédéral sur la manière dont on pourrait appliquer l'égalité salariale, et dans ce contexte, le salaire minimum serait également un pas de plus vers plus d'égalité salariale. Pourquoi ? Parce qu'il concerne un nombre très important de femmes. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de travailleurs autour de cette table, mais la réalité, c'est que les personnes en fait les plus concernées par ce salaire minimum, ce seront en majorité des femmes, puisqu'elles forment encore, selon les derniers chiffres de l'enquête suisse sur la structure des salaires, 67% des personnes qui aujourd'hui touchent un bas salaire en Suisse, c'est-à-dire qui touchent moins de 2/3 du salaire médian. Ça représente même un peu plus de 16% de l'ensemble des salariés, hein, donc un nombre très important de femmes. À la cause de ce phénomène, il y a évidemment le fait qu'il y a des inégalités salariales entre les branches. Hein. Donc on a dit qu'il y a beaucoup de branches dans lesquelles il y a des bas salaires, l'hôtellerie-restauration, le commerce de détail, le nettoyage, et ce sont aussi les branches qui sont les plus féminisées. Ça a des effets évidemment bien réels en termes de pauvreté. Hein. On l'avait vu autour de la campagne contre TV 2020, une pauvreté encore accrue au moment de la retraite. Mais ça a également aussi des effets en termes de dépendance économique des femmes qui les exposent à toute une série de discriminations et de violences, notamment au sein du cadre familial. Un petit exemple de ça, et on va reprendre encore une fois le rapport sur la pauvreté du Conseil d'État qui fournit vraiment des analyses intéressantes. Ils avaient fait des analyses sur le revenu déterminant unifié par individu qui montraient que si on prenait les femmes elles seules, le revenu elles seules, 32% des femmes seraient à risque de pauvreté si elles devaient assumer seules l'entier de leurs dépenses. Donc évidemment, une dépense assez forte aux compagnons, aux conjoints. Donc finalement, le salaire minimum, c'est évidemment une mesure aussi pour sortir les femmes de la pauvreté, pour améliorer l'égalité salariale et surtout pour renforcer leur indépendance, que ce soit au niveau du cadre familial comme au celui de l'entreprise, et aussi leur capacité à sortir des situations, à avoir les ressources économiques pour pouvoir sortir de situations notamment de violence au sein du cadre familial. Donc maintenant, on rentre tout de suite dans le texte. Donc on l'a rappelé en introduction, on s'est beaucoup basé pour rédiger cette initiative sur le cas de Neuchâtelois et la loi d'application qui a été faite pour des raisons assez évidentes. C'est qu'évidemment, on dépose aujourd'hui une initiative. À la fin, peut-être qu'elle sera attaquée hein, par la droite patronale, c'est une possibilité. Et à ce moment-là, on veut que l'examen par le tribunal fédéral, évidemment, nous soit favorable. Concrètement, le texte qu'on propose aujourd'hui, c'est une modification législative qui vise à modifier la loi sur l'inspection et les relations du travail. C'est notamment la loi qui définit les rôles et les compétences du département de la sécurité et de l'économie et de l'inspection paritaire des entreprises dans toute une série de domaines en relation avec le travail. Sur le plan du contenu, vous avez le détail, façon de tout copier, on vous l'a mis dans le dossier de presse, on introduirait un nouveau chapitre relatif au salaire minimum légal qui définirait son champ d'application, ses exceptions, son montant évidemment, et les mécanismes de contrôle et de sanctions pour vérifier son application. Donc au niveau du champ d'application, on a repris la même disposition qu'à Neuchâtel. L'application du salaire minimum serait circonscrite aux relations de travail dont le lieu de travail habituel est le canton de Genève, c'est-à-dire là où il y a l'activité prépondérante du salarié. Il y a des exceptions qui sont définies, notamment pour les contrats d'apprentissage, hein, dont le but est plutôt la formation que l'obtention d'un revenu. Pour les contrats de stage, mais qui s'inscrivent dans une formation scolaire ou professionnelle reconnue, avec la compétence, parce qu'évidemment, il y a toute la problématique des stages qui sont plutôt en fait des premiers emplois supérieurs, avec la compétence laissée, comme c'est le cas actuellement, au Conseil de surveillance du marché de l'emploi, de statuer si jamais il y a des litiges sur le fait que c'est un stage ou pas un stage. Et puis enfin, des exceptions qui sont définies pour les contrats de travail qui sont conclus avec des jeunes gens mineurs, donc plutôt pour tout ce qui est relatif au stage d'été. Pourquoi ? Parce que les jeunes gens mineurs, normalement, sont plutôt à la charge de leurs parents en termes financiers. Le montant, c'est peut-être le plus intéressant, il a donc été calculé de nouveau en s'inspirant du modèle Neuchâtelois. Donc on a repris les dépenses qui sont prises en compte par les prestations complémentaires fédérales à l'ADS et à l'AI, qui définissent notamment des niveaux pour les besoins vitaux, pour le loyer, qui prennent en compte la prime cantonale moyenne d'assurance maladie, les charges sociales, tout ce qui est aussi frais d'acquisition du revenu. Et ça nous donnait donc une somme globale qui, en la divisant par 41 heures hebdomadaires, ce qui est la moyenne en général, et 52 semaines par année, nous donnait un montant arrondi à 23 francs. Il y a également une indexation qui est prévue pour éviter que ce salaire minimum aujourd'hui vaille quelque chose et dans 10 ans n'ait évidemment plus le même poids en termes de pouvoir d'achat. Et surtout, pour prendre en compte les difficultés spécifiques que pourraient avoir certaines branches économiques, comme ça a été fait à Neuchâtel, on a laissé la latitude au Conseil d'État de pouvoir faire des exceptions pour les travailleurs de l'agriculture. C'est évidemment pas une exception qu'on laisse parce qu'on considère que syndicalement c'est quelque chose de juste. Au niveau syndical, évidemment, on pense que les travailleurs de l'agriculture ont le droit au même salaire que les autres, mais c'est un point qui avait été très mis en avant par le jugement du tribunal fédéral qui disait que dans la mesure où les travailleurs de l'agriculture travaillaient généralement beaucoup plus d'heures par semaine, et à Genève c'est le cas aussi, hein, le contrat type fixe 47h30, ils avaient finalement besoin d'un niveau de salaire horaire inférieur pour arriver au même montant à la fin du mois. De nouveau, pour éviter un risque d'invalidation, on a essayé de coller au plus près de la réalité de la Châteloise. C'est une possibilité qui est laissée par le Conseil d'État de faire cette exception. On espère qu'évidemment, il ne la saisira pas si notre initiative aboutit, et on pourra faire, si jamais, les batailles à ce moment-là. Et enfin, donc, l'initiative prévoit la possibilité d'être soumis à des contrôles. Donc, c'est les contrôles qui actuellement sont déjà réalisés par le CIRT, hein, l'inspection des relations de travail, et l'UPE, l'inspection paritaire des entreprises, et un système de sanctions qui s'inspire de celui qui a déjà 13 ans dans la loi pour pouvoir mettre des amendes, voire des exclusions de marché public si ce sont des entreprises qui soumissionnent à des marchés publics. Donc un contenu qui est relativement simple. Maintenant, la plus lourde tâche, ça va être de récolter ces signatures. Et pour vous expliquer le concept de campagne, je laisse la parole à Alessandro Pellegrini.
Merci Audrey, et merci à M. Valide pour l'explication du contexte. Et évidemment, quelques mots sur la campagne sont importants actuellement parce qu'on a une certaine haute conjoncture des initiatives lancées actuellement. Il y a presque tous les jours les conférences de presse qui en annoncent une nouvelle. Les syndicats n'en annoncent pas souvent. Manuela Catani l'a évoqué au début. On a lancé une initiative sur l'inspection des entreprises. On lance maintenant l'initiative sur le salaire minimum. On la lance, cette initiative, pour la gagner. Alors, je pense que c'est important de le dire, on la lance pour la gagner. Parce que matériellement, le contenu de cette initiative me paraît absolument nécessaire pour améliorer la situation de vie et de travail de dizaines de milliers de salariés de son canton. Donc on ne lance pas cette initiative pour faire beau, on lance cette initiative pour la gagner. Mais une initiative au-delà du contenu, évidemment, porte toujours aussi un message politique. Et ce message politique, il n'est pas indépendant du contexte politique dans lequel nous lançons cette initiative. Je reviens encore une fois sur ce qu'a dit Manuela Catani en introduction. Si vous vous rappelez, l'initiative pour l'inspection paritaire des entreprises avait finalement débouché en 2014 sur un vote unanime du Grand Conseil pour l'instauration de cet inspectorat ici à Genève. Nous avions réussi à l'époque, dans un contexte, c'est pour ça que j'ai cité l'année 2014, où l'initiative contre l'immigration de masse venait d'être acceptée en Suisse, où tout le monde parlait de fermer les frontières. Nous avions réussi à l'époque de déplacer le débat à Genève sur le vrai problème, c'est-à-dire le problème de protection des conditions de travail dans ce canton, et nous avions obligé la totalité des partis de nous suivre. Aujourd'hui, les syndicats font le constat qu'il est de nouveau nécessaire d'avoir une boussole syndicale, une boussole politique, notamment pour des salariés précarisés dans ce canton, des salariés qui sont particulièrement convoité actuellement en période électorale par des partis xénophobes. David l'a évoqué tout à l'heure. Il n'y a pas moins que deux initiatives qui circulent actuellement avec plus ou moins le même contenu. Genève d'abord, lancée par le parti des milliardaires, l'UDC, qui prétend vouloir inscrire dans la constitution genevoise le principe du droit à l'emploi, ce qui est évidemment une surpercherie incroyable. Ce n'est pas possible dans un canton de garantir le droit à l'emploi. Par contre, c'est un véhicule idéologique extrêmement puissant parce qu'on peut lire dans cette initiative que la faute à la sous-enchère, c'est la faute aux frontaliers. Et c'est clairement très peu crédible de la part d'un parti comme l'UDC qui, il y a quelques semaines, avait fait une conférence de presse nationale pour attaquer frontalement la protection des salariés, donc frontalement les mesures d'accompagnement et les syndicats de croire aujourd'hui qu'ils sont là pour défendre les salaires des gens. L'autre initiative qui circule n'est pas meilleure, hein, Frontalier Stop par le MCG, qui essaye de revenir avec le principe de préférence cantonale ou indigène pour le canton de Genève, un principe dont on connaît l'inefficacité parce qu'elle est déjà en vigueur dans le secteur public et parapublic en termes de création d'emplois et de résorption de chômage, mais on sait relativement efficace pour augmenter la pression sur les chômeurs en les poussant à accepter des emplois à moindre prix. Donc ça nous paraissait important dans ce contexte-là où les partis xénophobes essaient de diviser les salariés pour permettre aux employeurs d'embaucher encore mieux à bas prix, en essayant d'imposer un discours de fermeture de frontières, de protection des frontières, de réaffirmer la nécessité de protéger les salaires et donc de donner une boussole aussi aux salariés précarisés dans ce canton. Vous l'aurez compris, donc, c'est aussi un peu une démonstration de force qu'on essaye avec cette initiative, en contestant aussi la lutte pour les idées, des idées aujourd'hui polluées passablement par des partis xénophobes. Nous n'avons pas évidemment les mêmes moyens financiers que les partis des milliardaires UDC ou les autres partis MCG Genève en Marche qui dépensent des centaines de milliers de francs pour récolter des signatures, on l'a vu avec relativement peu de succès du côté de Genève en Marche. Nous avons une autre force qui n'est pas la force de l'argent, nous avons la force d'être parmi les syndicats en Suisse les plus enracinés sur les lieux de travail. Genève, il faut le rappeler quand même, c'est le canton qui a vécu ces dernières années le plus de mobilisation salariée, le plus de grèves, que ce soit dans la fonction publique, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de la construction, dans le secteur parapublic. Des syndicats d'ailleurs aussi qui étaient les moteurs dans des référendums où les syndicats ont joué un rôle important pour la lieu 3, pour PV 21. C'est ça notre force, nous sommes représentatifs des salariés dans ce canton et c'est sur cette force que nous allons compter pour récolter les 5227 signatures nécessaires, ou pour être plus précis, entre 6000 et 6500 parce qu'on doit toujours avoir une certaine marge de sécurité. Mais quand je dis qu'on veut aussi démontrer notre force en UDC et en UCG, nous ne nous contentons pas de récolter ces signatures dans le cadre du délai prévu. Nous voulons déposer l'initiative au 1er mai. Donc nous avons 3 semaines pour récolter les signatures. Nous sommes convaincus que nous y arrivons. C'est la raison pour laquelle vous trouvez sur la feuille référendaire la date de fin de récolte au 30 avril pour que la fête de la lutte des travailleurs soit aussi le jour du dépôt d'une initiative pour améliorer le sort de dizaines de milliers de salariés dans ce canton. Nous allons, et vous allez le voir, déployer évidemment quelques moyens visuels sur des trams dans les rues. Nous avons un site internet, c'est www.ch, qui ne se trouve pas, sauf erreur, dans le dossier de presse. Donc, ah oui, excusez-moi, c'est tellement bon que je le salue. Donc voilà, c'est là-dessus que nous allons baser nos forces et évidemment aussi nous allons nous baser sur le soutien de nos partenaires, les partis alternatifs qui sont là aujourd'hui pour témoigner de leur soutien et je passe en entier donc la parole pour représentant les différents partis. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Jocelyne Haller pour se libérer.
Merci. Peut-être préciser d'entrée que la question du salaire minimum est une question à laquelle le mouvement Solidarité est particulièrement attaché, s'y est régulièrement engagé pour défendre et promouvoir cette cause. Ce qui nous paraît particulièrement important, parce que l'essentiel a quand même été dit sur le pourquoi et le comment de cette initiative, c'est notamment cet aspect de resituer un des objectifs de cette initiative, qui est de lutter contre la pauvreté par le biais de l'instauration d'un salaire minimum, qui permet de resituer les responsabilités là où elles se trouvent régulièrement. Tout à l'heure a été cité le fameux rapport sur la pauvreté, le RD1155, qui a été commandité par le Conseil d'État et qui donne une série d'indications précieuses sur l'évolution de la pauvreté à Genève. Or, ce que l'on constate, c'est que s'il y a un groupe de suivi qui a été mis en place et qui a abordé un certain nombre de questions, celle qui a été relevée tout à l'heure par Davide De Filippo n'a pas fait l'objet précisément d'une démarche de suivi qui est celle de la question de l'emploi et de la sous-enchère salariale. Donc il nous paraît extrêmement important de reposer cette question, mais surtout de battre en brèche le discours de ceux qui aujourd'hui s'insurgent contre l'augmentation des charges de l'État en matière d'aide sociale et qui ne veulent pas agir sur les véritables causes de la pauvreté. lorsqu'on dit à M. Poggia il faut lutter contre les causes de la pauvreté et non pas simplement en gérer les effets, il dit mais quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Or, en l'occurrence, ici, avec cette initiative, il y a un moyen extrêmement concret, précis, d'agir contre les causes de la pauvreté et de resituer les responsabilités là où elles se trouvent, parce que généralement, certains milieux se plaisent à considérer que soit c'est la faute des frontaliers, soit c'est la faute des travailleurs eux-mêmes si aujourd'hui ils se trouvent dans une situation de pauvreté. Donc reposer le problème à son origine nous paraît quelque chose d'extrêmement important. C'est une manière de lutter contre la pauvreté d'aujourd'hui, mais également, comme ça a été relevé tout à l'heure, aussi de poser la question de la prévoyance plus tard et de la question des prestations complémentaires, parce qu'on le voit bien avec l'augmentation de la pauvreté, de la précarité, notamment en matière d'emploi, les prestations complémentaires qui étaient censées disparaître à terme, aujourd'hui vont devoir perdurer parce que, par le biais du chômage ou par le biais de la sous-enchère salariale, les personnes qui aujourd'hui réalisent de très faibles gains ou des gains irréguliers devront avoir besoin plus tard des prestations complémentaires de l'État. Et donc ce discours totalement contradictoire de ceux qui veulent moins d'État, finalement, aboutit au fait que l'État est appelé à intervenir de manière beaucoup plus prégnante. Et c'est quelque chose qui nous paraît absolument absurde et qu'il faut combattre. Et cette initiative est un moyen de le faire. Je vais m'arrêter là pour laisser mes collègues développer d'autres aspects.
Oui, bonjour. Voilà, donc Jean-David Cristina, je représente le Parti du Travail. Donc nous, au Parti du Travail, on considère évidemment qu'on lutte contre la précarité depuis toujours. Évidemment qu'on soutient cette initiative. 23 francs, c'est un minimum. Mais on considère, nous, au PDT, que 23 francs, ce n'est pas suffisant. On considère qu'on pourra aller plus loin que ça. Alors, c'est une étape, c'est une très bonne étape. Mais nous, on pense qu'on peut vraiment... il faudrait demander... Les chiffres, je vais vous donner des chiffres qui sont pas... c'est pas des chiffres en l'air, mais c'est pas encore précis, mais entre 35 et 40 francs de l'heure, moi je pense qu'on le PDT pense qu'on pourrait aller jusque-là. Voilà. Alors c'est extrémiste, c'est marxiste, c'est comme ça, c'est le Parti du Travail. En tout cas, mais je le répète, on soutient cette initiative. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci.
Oui, merci. Alors pour les Verts, alors officiellement le soutien sera entériné ce soir en comité, mais il est évident que les Verts soutiennent cette démarche, déjà de par leur engagement au niveau du Grand Conseil avec le soutien de projets de loi qui allaient dans cette direction. Le salaire minimum fait partie du programme électoral de la législature dernière, de celle qui va venir. Donc naturellement, c'est un thème qui nous est cher. C'est vrai que si on reprend les exemples, on parle de Neuchâtel, mais aussi du Tessin, c'est une initiative des Verts qui avait été lancée et acceptée en 2015 pour le salaire minimum. Donc c'est un combat qui est inhérent à la cause verte sur des questions évidemment de solidarité, en lien avec la question en effet, comme l'a dit Jocelyne Allaire, par rapport à l'aide sociale aussi, de calmer aussi, de recourir systématiquement à l'aide sociale, mais de permettre à tout un chacun de vivre dignement avec un minimum, parce qu'on parle bien d'un minimum, et c'est important de le redire ici. J'aimerais revenir sur un des aspects, parce que beaucoup de choses, évidemment, où l'entièreté a été dit très bien par l'action syndicale, globalement, mais c'est évidemment la question des femmes, parce que Audrey l'a dit tout à l'heure, la question des femmes, d'abord parce que les femmes sont nombreuses à occuper des postes qui sont moins payés que les hommes, hein. On l'a dit, que ce soit en lien avec la vente, avec l'administration en général, nettoyage, blanchisserie, restauration, etc. Mais de préciser ici ou d'insister sur le fait qu'elles occupent aussi des travail à temps partiel. Et puis la question du temps partiel, c'est évidemment aussi une démarche pour les Verts qui est très importante, parce que de favoriser de manière générale le temps partiel, mais pour tout un chacun, pas pour les femmes, actuellement ce sont essentiellement les femmes, 6 femmes sur 10 en Suisse occupent un travail à temps partiel. Les Verts revendiquent que le temps partiel soit beaucoup plus généralisé, mais pour tout un chacun, pour les hommes autant que pour les femmes, de manière à pouvoir aménager beaucoup mieux la vie professionnelle, la vie privée, et le loisir, ou de manière générale, une vie plus équilibrée. Donc évidemment qu'avec un salaire extrêmement bas, le temps partiel, avec en plus un temps partiel, on arrive avec des salaires en moyenne par mois qui sont catastrophiques. Si on prend les références, par exemple, pour nettoyage, à 3700 francs par mois en moyenne en Suisse, avec un mi-temps, on arrive à 1850 francs par mois. Donc on arrive vraiment à des peanuts de salaire. Or, ce sont aujourd'hui les femmes essentiellement qui sont touchées par cette précarité-là. Et dans ce sens, naturellement, cette initiative va pour une meilleure stabilité pour les femmes, en particulier, qui, il faut le répéter encore ici, à Genève, on sait encore qu'à travail égal, les femmes sont en moyenne payées 7,9% de moins que les hommes. Donc cette disparité salariale existe aussi au niveau des salaires, d'une part, mais aussi au niveau, de manière plus large, de la question du travail à temps partiel. Donc voilà, les Verts soutiennent l'initiative, on le précisera encore ce soir, mais on peut déjà l'annoncer aujourd'hui. Et je remercie l'Action syndicale pour cette démarche essentielle.
Cyril. Merci. Alors, évidemment, le Parti Socialiste soutient également cette initiative des syndicats. Pour nous, c'est vraiment un soutien qui est naturel, qui s'est fait d'ailleurs en Assemblée Générale, à l'unanimité, juste avant la pause de Pâques. Le combat contre les inégalités salariales, c'est pour nous vraiment un combat central, si ce n'est presque le combat central. On a été actif aussi au niveau du Parlement durant cette législature, essentiellement par rapport aux inégalités salariales au sein de l'État, par exemple contre les sous-traitances, notamment dans le domaine du convoyage. On s'est également attaqué aux hauts salaires des dirigeants des régies publiques. Où on a déposé un projet de loi. Et là, c'est vrai que au niveau des salaires dans le privé, il y a une occasion qui est offerte par les syndicats de relancer ce débat-là. Effectivement, après plusieurs tentatives, mais il y a quand même eu un changement un peu de circonstance avec cet arrêt du tribunal fédéral dans l'affaire neuchâteloise qui a été citée tout à l'heure. Mais également du fait qu'on a une base constitutionnelle avec l'article 149 de la Constitution de 2012 qui nous dit que l'État prend les mesures permettant à toute personne de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié, exercé dans des conditions équitables. Donc cette base constitutionnelle permet aujourd'hui d'avoir une initiative législative, c'est-à-dire une initiative qui est immédiatement opérationnelle et qui va se traduire immédiatement par rapport aux conditions de travail. Et c'est pour nous, disons, le salaire minimum est presque encore dans la question des inégalités salariales le point le plus central, c'est-à-dire revaloriser les bas salaires. Et pour nous, il est tout à fait inadmissible qu'il y ait 30 000 salariés, ça a été dit tout à l'heure également, qui gagnent moins que ce salaire minimum de un peu plus de 4 000 francs qui... finalement est un minimum pour vivre décemment à Genève, pour vivre dignement. Et finalement, pour nous, c'est vraiment inadmissible qu'il y ait 30 000 personnes qui doivent potentiellement recourir à l'aide sociale pour parvenir finalement à ce minimum. Et effectivement, ça a été dit aussi, c'est une démarche qui est complémentaire à celle du partenariat social. Par rapport notamment aux 48% de personnes qui ne sont pas protégées par des CCT au niveau des travailleurs et des travailleuses de ce canton. Donc vraiment cette initiative a l'avantage, comme à Neuchâtel, de s'articuler finalement avec le partenariat social pour le compléter. Voilà, après c'est sûr que nous, notre camarade du PDT, on peut aller plus loin. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer de se baser sur les prestations complémentaires cantonales au lieu de fédérales. Là, il y a une démarche qui est une démarche pragmatique, où on est au niveau juridique, la chose est balisée, et je pense que c'est vraiment bien de commencer par là, et puis ça aura un effet sur l'ensemble des salaires. Voilà, merci.
Bien, merci au soutien de s'être exprimé. Est-ce que c'est un peu le moment des questions? On a fait le moment, on a encore un petit moment pour les questions.
Pour vous, 30 000 salariés potentiellement concernés, aujourd'hui, le niveau de salaire de ces personnes, vous avez à nous dire à peu près quel montant quel montant ils s'élèvent. C'est des gens qui sont plutôt à 3500, à 4000.
Alors, bien sûr, le chiffre de 30 000 qu'on a cité tout à l'heure, bon, ça relève de l'enquête sur les salaires de 2014. C'est effectivement 30 000 salariés gagnent moins de 4 000 francs par mois, dont la moitié de ces 30 000, donc 15 000, gagnent moins de 3 500 francs par mois.
Pour des temps pleins.
Oui, on parle bien de temps pleins.
D'autres questions ?
Vu qu'il s'agit d'une initiative législative, quand elle arrive devant le Grand Conseil, s'il y a une majorité au Grand Conseil, elle passe sans recours au peuple. Donc je me demandais pourquoi vous aviez un discours aussi offensif vis-à-vis du MCG, qui serait éventuellement celui qui pourrait vous permettre d'obtenir une majorité au Grand Conseil. Est-ce que vous ne feriez pas mieux d'expliquer au MCG... finalement, avec 23 francs, c'est fini, on arrêtera d'engager des frontaliers à 10 euros, en leur disant que c'est le Pérou.
Bah écoutez, jusqu'ici, le MCG n'a pas soutenu l'initiative salaire minimum légal. Nous avons voté sur le plan fédéral en 2014. Il ne l'a pas soutenu. Et ce refus de soutenir des mesures comme le salaire minimum légal montre bien que pour eux, c'est plus important de développer leur fonds de commerce, de diviser les salariés et mettre la responsabilité de la sous-enchère des bas salaires, du non-partage des richesses sur une partie des salariés migrants plutôt que de s'attaquer aux vrais responsables des bas salaires, de la précarité, de la sous-enchère que sont les patrons et le patronat. Donc, notre initiative, c'est un combat pour nous, pour la CGS, c'est les salariés d'abord, sans considération de passeport d'origine et ainsi de suite, alors que pour le MCG, il ne défend que les résidents.
Peut-être juste pour compléter, ce n'est pas une initiative anti-MCG, c'est une initiative pour améliorer les conditions matérielles de 30 000 salariés dans ce canton. Par contre, nous sommes convaincus que d'avoir un discours syndical ambigu sur des questions fondamentales pour le mouvement syndical, qui sont notamment les questions de la solidarité entre les travailleurs, ne sert pas la cause syndicale. On l'a vu en passé, les centrales syndicales qui ont commencé à avoir des sympathies pour le principe de la préférence nationale ou cantonale, finalement n'ont pas eu énormément de succès auprès de leur base, parce que, ça on sait aussi, les salariés finalement préfèrent suivre l'original que des mauvaises copies. Donc si on veut être une boussole, on a l'obligation d'être clair dans le message. Et on est clair dans le message quand on dit si on veut lutter contre la sous-enchère, si on veut lutter contre la précarité, la pire des choses, c'est diviser les salariés. Et malheureusement, il y a des partis qui font de cette thématique-là le fonds de commerce, raison pour laquelle on ne fait pas de détour. Je dis que ce n'est pas une initiative anti-MCG, mais on a le besoin et l'obligation d'être aussi un peu pédagogique par rapport aux salariés précarisés, raison pour laquelle la récolte de signatures sera accompagnée par un tract pédagogique qui explique et on distribue aussi aux salariés pourquoi lutter contre la précarité et voter et signer les initiatives MCG-UDC ne sont pas compatibles. Et le titre est relativement clair, contre les initiatives Genève d'abord et frontalier stop, nous disons les salariés d'abord et MCG-UDC stop.
Juste un petit complément sur l'expérience parlementaire par rapport aux positions du MCG pour vous répondre. On voit que ponctuellement, il arrive que le MCG soutienne la gauche. Par exemple, les deux exemples que j'ai cités tout à l'heure sont parlants. Sur la question du convoyage, c'est clair que là, on a une majorité sur une question ponctuelle qui concerne quand même les salaires. Par contre, on voit qu'à d'autres occasions, par exemple par rapport au salaire des dirigeants, on sait souvent que le MCG a un discours populiste, etc., contre soi-disant contre les élites. En réalité, là, sur cette question des salaires des dirigeants des régions publiques, on n'a eu aucun soutien de la part du MCG. Donc voilà, on verra bien, mais moi je salue quand même la démarche des syndicats, qui est une démarche de clarté. Puis après, si le MCG... voter aussi pour cette initiative au Grand Conseil, une fois elle sera acceptée, puis sinon ça ira devant le peuple, et puis je crois qu'on n'a pas peur de ça. Quoi. Voilà.
Comment vous avez choisi entre la voie législative ou la voie constitutionnelle ?
Pour pouvoir traduire le montant directement, en fait, si vous faites une initiative constitutionnelle, vous posez un principe et ensuite, une loi d'application doit en être faite sur lesquelles vous n'avez pas, disons, la maîtrise. Ouais. Hein. Si vous passez directement par l'initiative législative, vous pouvez fixer le montant, le principe, les exceptions.
Puis surtout, l'initiative constitutionnelle, elle ne va pas être immédiatement opérationnelle. Donc s'il y a déjà une base constitutionnelle, c'est un peu inutile finalement de repasser devant le peuple pour rajouter encore une base constitutionnelle plutôt que d'avoir directement la loi avec le bon montant. Quoi.
D'autres questions?
On s'était vu il y a à peu près, je crois, 2 mois avec les membres de l'Ensemble à gauche et l'Alternative. Vous aviez déposé un projet de loi. Est-ce que l'initiative qui est proposée ici maintenant n'est pas redondante par rapport à votre propre projet de loi qui va normalement être calé aussi? Ensuite, je voulais savoir plus précisément, vous parlez d'un modèle neuchâtelois, mais le modèle neuchâtelois, c'est pas, vous parlez de ça comme ça, mais en fait, c'est pas le modèle syndicat neuchâtelois, c'est pas l'initiative UNIA qui avait été lancée à Neuchâtel.
Non, c'était pas une initiative UNIA, c'était une initiative Ensemble à gauche, je ne sais plus comment ça s'appelle à Neuchâtel, ou c'était peut-être même Solidarité directement, d'accord. Qui avait fait une initiative constitutionnelle, et ensuite la loi d'application a été faite effectivement par l'État, Neuchâtel, c'est pas un syndical. Peut-être par rapport à l'initiative, je ne pense pas que ce soit redondant, effectivement. On sait qu'au niveau du Parlement, disons, mais ça je laisserai peut-être plutôt les parlementaires s'exprimer, il y a peu de chances que ça passe. Avec une initiative, on a la chance d'avoir un recours à la population directement, et là, je pense par contre qu'on a des grandes chances de réussite. On l'a dit, on a échoué déjà 2 fois, mais disons une fois parce qu'il n'y avait pas de montant, l'autre fois parce que c'était fédéral. C'était un des arguments qui revenait beaucoup sur les temps, c'était le fait, c'est vrai à Genève, 4000 francs, c'est nécessaire, mais peut-être que dans le Jura, c'est trop. On essaye maintenant avec un montant et un niveau cantonal, et là, je pense qu'on a vraiment des chances de réussite.
Peut-être pour répondre plus directement, pour avoir déposé ce projet de loi, je me rappelle, nous sommes particulièrement intéressés et attachés à cette cause-là. Et il nous semblait intéressant d'obliger le Grand Conseil à se confronter à cette question. Toutefois, et ça répond peut-être indirectement à la question de M. Moulin, nous avons peut-être plus confiance dans le peuple que dans le Grand Conseil. Et il nous semble qu'indépendamment des efforts pédagogiques qu'on peut faire pour faire comprendre à la majorité qui aujourd'hui règne en maître sur ce Grand Conseil, quels sont les tenants et les aboutissants d'un salaire minimum. Mais au-delà de cette question, nous savons quelles peuvent être les réticences qui vont se faire entendre à ce propos. Mais nous pensons que le Grand Conseil doit se confronter à cette question, qu'il doit aussi tomber le masque par rapport au discours sur la pauvreté, l'origine de la pauvreté. Donc il nous semble important de déposer ce projet de loi au niveau du Grand Conseil, mais ça n'ôte rien pour nous à la légitimité et à la plus que pertinence de l'initiative syndicale qui pour nous est quelque chose d'important, parce qu'elle pose cette question dans l'espace public, elle la remet dans les mains aussi des travailleurs, ce qui est peut-être une place peut-être plus légitime que celle du Grand Conseil.
Puis rappeler quand même qu'il y a les élections, on va changer de législature, donc on n'est pas voué à être toujours minoritaire. On a des espoirs dans le renouvellement du Grand Conseil, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir cette double démarche à la fois au niveau du Parlement et du peuple.
D'autres questions? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, merci d'avoir participé à cette conférence de presse.